Oh, en fait, ça pourrait faire trois, non?
Non, c'est parce qu'il va y avoir les journées du patrimoine, là, certains.
Ah, ouais.
Quand on fait des aménagements, là, la Silla, à la Dulanguière, tout ça.
Ah, ouais.
Ils ont un peu retapé. Et donc, il va y avoir une sorte de fête, et donc, il va y avoir un reportage son, comme ça, de gens qui parlent.
Qu'est-ce que tu dis, Émilie?
Et vous allez faire comment? La porte d'honneur, vous allez la passer là-haut pendant le.
Qu'est-ce qu'elle dit, la biche, là? Qu'est-ce qu'elle dit, la biche,
là? Les gens peuvent écouter, si tu veux. On ne sait pas encore quelle forme on va prendre, parce qu'on va pas en mettre de la vie.
Et puis, on fait un montage son. Là, qui sera diffusé.
Là, ça passera, ça fait la radio.
C'est uniquement des voix de gens du coin qui parlent de, des communes.
Ça va être diffusé.
Voici.
On va donc sur le ciel.
Sont sur les coups, avec le plus de gens possible qui disent un peu des trucs sur les coups, ce qu'ils veulent. Suivant ce qu'ils font, suivant ce qu'ils.
Non, mais est-ce que je pourrais vous dire?
Ah, si, parce que vous êtes.
Tu veux attendre.
Ouais, allez-y. D'accord. C'est cool, le fin.
En principe, oui. Oui. Il est en plein dedans.
En plein dedans. Et en Curelle, c'est les coulmes aussi.
Bah oui, bien sûr. Bah oui, ça fait tout partie du massif des coulmes. Eux, ils sont plus côté, donc ils sont peut-être plus tournés vers Villard-Lan, Autrin. Et nous, je pense qu'on est plus tournés vers la vallée, vers Saint-Marcelin, surtout Saint-Marcelin.
Mais c'est comme le Charmeil, un peu. Le Charmeil, c'est pas les coulmes. Le Fin, c'est un peu pareil, non?
Parce que c'est pas encore la forêt, c'est pour ça.
Ouais,
c'est pas les coulmes, en fait.
Je sais pas. Oui, je croirais. Hein. C'est à l'orée des coulmes, mais c'est pas tout à fait les coulmes.
Mais vous, on disait, parce que nous, aujourd'hui, tout le monde dit les coulmes, et puis avec le côté touristique, enfin.
Ouais.
Et gosse, on disait, j'habite dans les coulmes, si on...
Non, nous, on disait, j'habite au Fin.
Oui, c'est ça.
C'était voilà, pas une... J'habite au Fin.
C'était le Vercors ou le Fin, voilà, le Fin, quoi. Ouais. Enfin, pas le côté exact. Les coulmes...
C'était pas les coulmes.
Ah, principalement, les coulmes, c'est...
C'est
à partir de là,
des
nord que ça
va, ouais.
Jusque, comment vous dire, Chouarin, Chaubrive, ça fait partie des coulmes. Les coulmes vont presque jusqu'à l'Isère.
Les coulmes, pour moi, c'est, sur le Val de Rancurel, c'est tout ce qui est en rive droite de la Doulouche. Voilà, c'est le versant un peu plus aride, un peu plus pauvre, là où il y a peu de terre.
On disait pas, on parlait pas des coulmes. Nous allions régulièrement, la Lunette, c'est quand même les coulmes, nous allions régulièrement au Pas de Neur, que ça c'était la sortie, nous allions, nos parents allaient, et nous allions avec eux, disons, aux framboises, puisqu'elles commencent à mûrir, parlons-en, eh bien nous allions, à Tircôte, nous allions, disons, au Pas du Follet. Nous allions dans ces secteurs-là depuis toujours, mais on ne parlait pas des coulmes.
Il est vrai qu'on dit Rancurel, mais on ne dit pas forcément les coulmes. C'est notre génération, on a plus tendance à parler des coulmes, effectivement. Mais nos parents et nos grands-parents, pour eux, les coulmes, c'était le massif forestier et il fallait aller dans les coulmes pour avoir... une bonne raison pour y aller, quoi. Soit sortir du bois, soit faire du charbon de bois, mais on n'allait pas se promener comme ça dans les coulmes, comme nous, on peut le faire maintenant. Ma maman, par exemple, qui est de Rancurel, qui est née à la Barbière, n'a connu la Goulandière que depuis 5 ans, parce que je l'ai emmenée à la Goulandière, mais elle ne connaissait pas.
Les coulmes, je crois que c'est les points culminants.
Oui, c'est ça.
Oui.
Et vous ne culminez pas, vous êtes complètement enterré.
non, on n'est pas enterré. Regardez, là, on a une vue magnifique.
Culm, il me semble que ça vient du latin culmen, qui veut dire dominer. Culminer.
Et là, vous avez l'impression de dominer le monde, là, ici?
Un petit peu, mais on essaie d'oublier. En restant modeste.
Vers Courme.
Courme.
Oui. Courme, pas toi, oui. C'est V, c'est A.
Ouais.
Vers Courme. Hmm.
En français, c'est à Coulme. Ça veut dire quoi, Coulme?
Et il y a du bois de partout?
Non, non, c'est...
Synonyme de cime.
Ah, de cime.
Oui, oui, ouais. En patois.
Ça domine, quoi.
C'est la, oui, oui, c'est ouais. Ça. C'est une hauteur.
Ah, mais j'ai quand même connu des gens qui sont... Puis il y a encore des gens qui sont encore en vie, qui sont nés à Coulme. Hein.
Vous dites à Coulme? À Coulme? Au Coulme, il y en a qui disent, oui, oui. Ouais. Nous, on dit à Coulme, oui. Ouais. Ouais.
Nous, je sais, depuis qu'on est mariés, on s'est mariés en 51, ça commence de... Vieux, bon, on a toujours dit on va à Coulme.
Oui, exactement. Ouais. Pas du tout, on disait pas dans Mercor.
C'est ça, on disait.
On disait dans les Coulmes,
on
coule.
On avait même entendu à Coulme souvent, nous.
Ah non,
c'est
non,
plus vieux,
non,
je pense.
Non,
ça, c'est plus vieux, ça. Ah, c'est... On disait les Coulmes.
Oh, oui.
Les gens de Presles, les gens de Saint-Pierre, de Chérennes, d'Iseron, de Malval, de Ranquerel, allaient beaucoup à Coulme, comme on dit. Hein, on monte à Coulme. Donc il y a bien différence entre le terroir du village et cet espace du sauvage. Donc ils y allaient au Moyen-Âge.
On va laisser comme ça, hein, parce que. C'est encore de marche.
Oui, c'est miracle.
Ah, mais tiens-moi la machine.
Non, ah ben ici, j'ai fait pas mal de pistes. Hein.
Ouais.
Je veux dire, je connais pas par cœur, mais presque tout. Ah ben, il y a un plan ici, vous voulez voir?
Ouais.
Des trucs, c'est bon à voir. Même les gauches, j'ai emmené. Où c'est qu'il y a la lunette?
Ah, la lunette, oui. Ça, c'est sur, ça donne sur Malval, ça, la lunette.
Malval, pas de précoquet, par là. C'est par là, oui.
Ouais.
Faire une promenade en famille.
Oui, il y a un rocher.
Avec des copains ouais, à la camping. J'ai fait une tour de Chorange jusqu'à Presles et traverse de forêt de Coulme jusqu'à la Coulandière et descendait jusqu'à Chorange.
Il y a la fontaine de Pétouze aussi, vous ne connaissez pas?
Non.
Là, il y a une fontaine, ça coule tout le temps de l'eau là-bas, c'est frais. Alors il y en a qui viennent, qui cassent la croûte, qui sont à la lampe sur les arbres, là, sur les tilleuls. Même les champignons, j'ai trouvé des champignons là.
On a vu qu'il y avait une école à cet endroit-là. On a du mal à croire qu'il y ait pu avoir des élèves. C'est...
Puis là, il y avait une école, c'était tout habité.
Il y a encore le bâtiment?
Oui, il y a les murs, il n'y a plus le toit. Ils l'ont retapé un petit peu.
Ça.
La Goulandière, il y a une école.
Jusqu'en 1928, je crois. Il y a eu pendant 50 ans une école.
Ça, oui, ils ont peut-être retapé un peu.
C'est la République. Je voulais que les enfants soient scolarisés.
Il y avait plein de monde dans le coin.
Et qu'on était à 6 km du chef-lieu de canton. Donc il fallait une école.
La côte de Sival est bien retapée maintenant. Ils l'ont toute barricadée. On ne peut pas y rentrer dedans, hein.
Les aménagements qui ont été faits. Je pense que ça ne fait pas forcément l'unanimité parmi la population, étant donné que. Tant qu'à voir revivre des endroits comme ça, bon ben, ça leur rappelle des périodes d'histoire et ils trouvent ça un peu superficiel ou artificiel, disons.
C'est la manière dont c'est fait ou ils auraient préféré que ce soit vraiment reconstruit. Qu'est-ce qui gêne? J'ai du mal, franchement, à comprendre. Qu'est-ce qui...
Oui, moi aussi j'ai du mal, mais parce que. Je pense que les aménagements qui ont été faits, avec ce que les gens ont vécu, ils s'y retrouvent pas du tout. Et je crois que c'est là l'essentiel, quoi. Ils ont l'impression que c'est un peu du replâtrage qui a été fait sans essayer de se raccrocher au passé, à la réalité du passé.
Il y avait des jeunes là-bas, la Boulangière. Hein.
Il y avait des jeunes.
Ah ben, bien sûr. Il y avait des usines.
Des paysans.
Il y avait une famille qui puis partie quand les enfants étaient partis, la petite Boulangière là-bas. Il avait des gosses qui allaient aller à l'école. Il avait été à Saint-Julien. Un Glénat Forêt, qu'on les appelle. Oui, c'était Glénat. Oui. Le papa de Patrice Locatelli et puis sa sœur aînée, ils sont venus à l'école à la Siva.
Après, vous avez Glénat à...
Forêt.
Non, à la côte.
Saône ?
Non.
Non,
Pizan. Glénat Pizan à la côte.
Ah, oui, les Pizan.
Glénat Pizan à la côte.
Alors, un nom comme Pizan ou Ma, ça vient de quoi ?
Donc on leur mettait pour les différencier peut-être, voilà.
Ça veut dire Pizan, ça veut dire quelque chose, Pizan ?
Je ne sais pas. C'est poison, c'est pas poison. Non. Pour les différencier, vous voyez, il y en avait des portés tous le même nom, là. Glénat Pizan, après vous avez Glénat Chaune.
Oui.
Glénat Luneau.
Glénat
Gem aussi.
Oui.
Vous voyez s'il y en avait des Glénat ?
Alors, vous étiez. Quand l'école a fermé, oui. Ça, elle a fermé parce que déjà, on disait qu'il n'y avait pas assez d'enfants, c'est ça ?
Pas assez d'enfants. Ouais. Et vous ne savez pas qui c'est qui m'a fait l'école ? Ouais. C'était une institutrice, c'était une Corse. Ouais, mais il n'y a plus d'enfants. Eh bien oui, eh
bien oui. Qui est venue exprès ?
Enfin, elle a peut-être été dans le canton, par là.
Ouais.
Oui.
Le vrai chemin pour nous, la Goulangère, c'était le chemin du Rhin, au barrage de la Banne. Et ça démarre là, et ça va jusqu'à là-haut. Il faut 1h20, 1h et quelques.
C'est très calme, hein, et quand on habite là-bas, on doit faire toutes les choses lui-même et autarquie. La ferme ou l'autre chose, faire en bois, ou toutes les choses tu dois faire lui-même.
On est au bout du monde.
C'est une belle vue. C'est un peu une île.
J'habitais au bord de la forêt. C'était au lieu-dit d'Érimé, à Grand-Querel. C'est l'endroit où la terre devient un peu plus sèche et plus aride, près du caillou. Et, voilà, on est au bord de la forêt, quoi. Il y a les dernières prairies, après c'est la forêt. Ben, on sent que, il y avait donc du monde avant. Et puis d'être donc à cette limite-là, on a l'impression de faire partie un peu de ces gens-là. Et les derniers qui reculent petit à petit, qui se rapprochent du village. C'est vrai que... c'est très vivant par ces ruines. Il y a une ambiance, on ne sait pas trop ce qui... On a du mal à saisir l'histoire, mais on sent que c'est très chargé. Tous ces gens qui vivaient au fond des bois et qui n'étaient pas très reconnus à ce moment-là, quoi. Donc voilà, il y a même eu des petites phrases qui me sont remontées. J'étais le nouvel Italien qui arrivait. Voilà.
Il ne faut pas avoir oublié de prendre sa baguette le matin.
C'était à partir de la Toussaint, quand on était là-haut, il fallait penser au vin, à la farine. Ouais. Alors on allait... Vous
faisiez des provisions ?
Alors, c'était obligé, à partir de tout ça, il fallait penser, hein. Parce que vous êtes même avant la Toussaint.
Des vaches, bien sûr, des chèvres, un cochon, pardon, des poules, des lapins. Et puis alors, il faisait encore des récoltes, alors il faisait encore du blé, hein, au milieu des coulmes. Hein.
À la Sarne.
Il faisait du blé, et mon grand-père, avec son cheval, il descendait le faire moudre à Pont-en-Royant. Alors, c'était pas rien. Alors, ils envoyaient mon grand-père, ils étaient obligés de garder un cheval, parce que, d'abord, ils n'avaient pas d'eau, alors il fallait charrier l'eau avec le cheval. Alors, et puis, il fallait quand... Les petits, quand ils allaient à l'école, des fois, ils descendaient le matin, il n'y avait pas trop de neige, puis quand ils revenaient le soir, ils ne pouvaient plus remonter. Alors mon grand-père allait plus les chercher avec son cheval, avec un gros morceau de bois derrière pour pouvoir faire une petite trace, je ne sais pas comment, quoi. Ils appelaient ça un gros bond de bois. Alors, ils s'en sont vus toutes les couleurs, hein.
C'était du bon terrain, comme tu disais, là, où de partout, tu vois bien comme les sapins poussaient. De partout, il y avait des sapins, c'était des prairies, des chapelets et tout.
À peu près, il n'y avait pas un sapin. Impossible de trouver un sapin.
Tout ce qu'on voyait en sapin, c'est des gens qui ont eu du blé.
Puis regardez la Goulangière, il y avait des belles fermes, la plantation, hein. Beau domaine. Oh, ben, dis donc, ça, oui. Il y avait 5 fermes à la Goulangière, dans le terrain. Il n'y avait pas d'eau non plus, pas d'électricité non plus.
Mais c'était des fermes comme autrefois, où ils vivaient avec ce qu'ils avaient de... Vous savez, ils vivaient bien pauvrement. Parce que ils étaient très nombreux de familles chez ma maman. Parce que mon grand-père, quand il s'est marié avec ma grand-mère, il avait déjà 3 enfants. Il était veuf. Alors, J'en ai encore eu peut-être une douzaine. Enfin, de tout mon grand-père, il en a eu 14, je crois, je crois. Alors, hein, ils vivaient de leur terre, comme ils pouvaient. C'était bien difficile. Hein. Et puis alors, bon, ben, ils gardaient un cochon, il fallait le vendre. Ils ne mangeaient même pas parce qu'il fallait le vendre pour faire des sous. Point d'évier, point d'eau. Point, avec, pour élever tant des gosses et tout. Ben, ma grand-mère, elle faisait de la soupe 3 fois par jour. Mangeait de la soupe. Hein. Alors, elle faisait de la soupe 3 fois par jour. Alors, elle se levait le matin, à 5 heures du matin, pour filer. Elle filait de la toile, elle filait du fil. Avant d'envoyer ses gosses à l'école, à la lumière du poêle. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'éclairage.
C'est quand même pas tellement les coulmes qui les ont fait vivre, hein, parce que il y a eu des périodes où ça a été dur. Ça a été dur. Il n'y avait pas des grands moyens.
Et mon grand-père, une fois, je crois qu'il montait ou il descendait, mais il montait peut-être de Pont-en-Royans, j'en sais rien, avec son cheval. Puis son cheval, il a pris peur d'une volée de corbeaux. Il a eu peur. Alors la voiture, mon grand-père, c'est très accidenté du côté de Pont-en-Royans, je ne sais pas si vous y êtes passé, mais hein, c'est accidenté. Hein. Il a vu dégringoler son cheval, ah ben jusqu'au fond. La voiture a tourné en haut, puis mon grand-père a vu ça, son cheval après, ça a été la mort de tous les deux. Mon grand-père, après, il y en a un qui est resté 6 mois après, l'autre 2 ans, mon grand-père, il a pris le diabète, et le cheval, il a pris quoi, le diabète, le cheval, il est devenu poussif, qu'on appelle, quoi, il est devenu essoufflé. Enfin, ils en sont morts tous les deux des suites. Ah, oui. Ah ben oui, puis mon grand-père, ça l'avait tellement retourné, quand il a vu son cheval là-bas en bas, puis tout.
Et vous êtes parti, en fait, pourquoi vous êtes parti, pourquoi?
C'est parce que tous ceux de la fille m'avaient déjà vendu, on s'est vu mon père...
Je crois que l'ONF a bien voulu racheter. Hein. Sans ça, il y en a qui ne seraient pas partis, vous saviez. Ils étaient attachés à leur bien et tout. Hein. Mais ils vivaient quand même, ils étaient heureux à l'époque, ces gens. Oui, oui, plus que maintenant. Parce qu'il y a plus d'entraide, plus de solidarité et tout. Maintenant, c'est un peu personnel.
Par contre, il y avait les rapports entre les gens, entre les habitants. Je pense que les rapports étaient beaucoup plus forts. Quoi. Il y avait quand même plus de...
Une solidarité qui était presque automatique. Hein.
Oui. Moi, je pense que les uns allaient chez les autres. Ou... C'est vrai que c'était mieux, quoi, quand même, de ce côté-là, quoi, au niveau...
Oui, il y avait plus de contact entre les gens que maintenant. Quoi. C'est peut-être un effet de la télévision aussi qui a démoli ça. Quoi.
Et de partout, on a les veillées aux charbonniers, là.
Charbonniers, vous les avez connus quand même. Vous les avez connus parce que c'était parce que vous alliez vous les voir ou parce qu'ils venaient. Il y avait des échanges un peu.
Ils s'arrêtaient en passant des fois quand ils avaient besoin de quelque chose. Ils parlaient à maman, mais pratiquement c'est nous qui montions les voir souvent en promenade.
Ils venaient aussi se ravitailler un peu pour le lait, voyez. Le lait, des pommes de terre, des fromages par là. Puis ils parlaient quoi. Puis nous à l'époque on était gamins. On allait voir les charbonnières, bien entendu.
Charbonnières.
gros charbonniers et charbonnières. Hein. On n'y allait pas pour, spécialement pour les charbonnières. Hein.
Beaucoup de places de charbonnières au Coulmar, on en voit des places.
Donc il y a eu une grosse activité économique du charbon de bois dans les Coulmes, ça c'est sûr. Il y a des années, où nous étions, l'année qu'on était là aux Croisettes, il y avait peut-être une 25 à 30 familles
là, oui,
de 3 à 4 enfants. Vous voyez combien on était, ça faisait une certaine personne, hein. Même plus. Voilà. Nous sommes surtout des charbonniers dans notre région. Une spécialité un petit peu.
C'est un petit peu là-dessus, oui.
Je parle doucement pour une autre. Voilà. On a bien. Quand on est arrivé d'Italie, on était bien de là-bas, mais après, on est arrivé de ce côté.
Mais il y en a qui ont fait du charbon.
Il y a deux côtés dans les Coulmes, quand
même. Oui, oui.
Ouais. Même oui, encore aujourd'hui.
Bien sûr. Et puis, il y avait. Pas trop fort. Les chefs se partageaient les Coulmes. Là-bas, c'était les uns et là, c'était les autres. Et oui. Alors,
les uns, c'était ceux qui étaient au nord, ceux qui étaient au sud, c'est ça ?
Et oui. Et oui.
Alors, mais c'est bien. Ceux du sud étaient
venus.
Alors, patron, il y avait Gauthier.
Ben, nous, on y était pas. Voilà, nous, on était de ce côté. Hein,
mais côté, c'est Gauthier.
Et Mousselin.
Voilà. C'était. C'était ça. Ça s'est fait même comme ça. Mais
oui.
Le siège social de Gauthier, c'était de là-bas. Mmh. Et le siège de. Oui. De nous, c'était de ce côté. Alors,
on allait ramasser les framboises.
Il y avait que ça à partager dans les bois.
Les zones, même pas le bois, les zones. Voilà.
C'est mon grand-père, Gauthier, qui est né à Presles d'ailleurs, et qui est arrivé à la Balme de Rancurel à 18 ans, et qui a créé son entreprise de fabrication de charbon de bois. Et pour la fabrication du charbon de bois en meule, c'est une technique essentiellement apportée par des familles italiennes, et c'est la raison pour laquelle mon grand-père est allé chercher en Italie, dans les années 35, je pense, les familles Mousselin et Serradura, Guénaud, des familles qui sont encore à Saint-Marcelin, puis peut-être d'autres familles d'ici, Locatelli, Zanella. Et après la Deuxième Guerre mondiale, en 1947-1948, Alfred Mousselin et Till Mousselin, qui étaient deux frères, et qui fabriquaient du charbon de bois avec leur père chez mon grand-père, se sont installés à Saint-Marcelin pour, à leur tour, créer leur entreprise et fabriquer du charbon de bois. Alors, j'ai toujours entendu dire par M. Alfred Mousselin que lorsqu'ils se sont mis à leur compte pour savoir où mes oncles et mon père vendaient leur charbon de bois, ils avaient lu sur les sacs en jute dans lesquels le charbon était emballé Ugine ou Progile, et ça avait été peut-être un de leurs premiers débouchés ou de leur première recherche en matière de clientèle.
C'était une grande confrérie, non, quand même?
Oui, je crois que les relations de toutes ces familles ont toujours été cordiales, comme tu dis, malgré la concurrence, parce que ces familles se respectaient, la valeur du travail était une valeur importante qui était respectée par tous. Et puis, par exemple, ils se rencontraient à Saint-Marcelin, dans les années 60, moi j'ai le souvenir dans les cafés pour embaucher des équipes de charbonniers. Bon, ben, c'est avec plaisir qu'ils se retrouvaient. De la même manière, lorsqu'ils achetaient leur bois à la vente au NF à Grenoble, c'était très convivial et ça se terminait souvent en grande fête ensemble. Et je veux dire, bon, ben, ça n'a pas changé puisque. Hein, les descendants des Mousselin, des familles Benacchio, les familles Locatelli, Zanella, bon, ben, moi je suis toujours resté aussi ami avec eux.
Le charbonnier, c'était d'abord une connaissance orale. Donc on se transmettait pour faire un charbon de bois, il n'y avait rien d'écrit, c'était tout oral. Hein. De toute façon, pour faire un charbon de bois, c'est une spécialité, ça ne se fait pas comme ça. Hein.
Alors vous savez que la quantité du charbon, il faut 400 kg de bois pour faire 100 kg de charbon.
400
kg
de bois,
oui. Voilà. Et nous, celles qu'on faisait là, les plus petites, on faisait 10 tonnes de charbon, mais on en faisait des jolies. Hein.
Alors, tous les dimanches, on avait un épicier qui montait le casse-croûte, c'est-à-dire qu'il venait avec sa camionnette pour acheter pour nous, pouvoir nous alimenter après. C'était une fois par semaine. Et dans la semaine, c'était beaucoup la polenta. Nous avions des poules, donc des œufs. Et il y avait quelques-uns qui étaient chers pour le lait, etc. Voilà, ça c'était... parce que le premier souci de tous les bûcherons, c'était de fabriquer. Alors ils mettaient le poulailler, ils faisaient un poulailler, ils faisaient un petit jardin pour le chicot d'armer, le persil. Et voilà, et après le reste, ils se débrouillaient sur place. Parce qu'avec des poules, on arrive toujours un peu quand même.
Avec des pommes de terre, de la polenta, des pâtes.
Ils étaient noirs.
Noir, c'est-à-dire par le charbon.
Ouais.
Bah, ça arrivait, bien sûr, avec leur métier. Hein. Quand il y avait la charbonnière, hein, je vous dis pas. Mais je vous dirais que charbonnier noir, il y en a un qui était venu de Sardaigne. Alors lui, noir de nature, comme un Sénégalais, noir.
Ah, oui.
Alors lui, il ne fallait pas trop l'approcher, il y en a qui en avaient peur de ça. Il n'était pas plus méchant qu'un autre. Il était noir, hein. Alors, tout noir. C'est le seul que j'ai vu de noir.
Ils étaient aussi propres, dimanche.
Ah oui, ils étaient propres, ils étaient bien tenus. Hein.
Ah, mais on peut vous dire, voyez, le dimanche, ça dansait, bien sûr. Ça dansait sur les pas de charbon parce que tout le monde, mon père jouait de l'accordéon, on avait beaucoup de chasse là-dessus.
Je jouais de l'accordéon,
alors donc.
Non, on voit l'accordéon avec les
tirs. Mais voilà, et donc on dansait, et sur de la terre battue.
Et le maître à son chantier, au flanc de sa fournaise, dans son palais d'or, avec son trésor, un roi n'est pas plus à l'aise. Il a la forêt pour maison et le ciel pour fenêtre. Ses enfants poussent à poison sous le chêne et le reine. Ils ont pour berceau l'herbe des roseaux et le rossignol pour maître. Ils ont pour berceau
À certaines périodes de l'année, de lentes colonnes de fumée s'élevaient des profondeurs de la forêt, annonçant la présence de ce demi-sauvage, le charbonnier. Le charbonnier est le maître du feu. Le charbonnier est maître chez soi. Le charbonnier, c'est comme la feuille, il vient au printemps et disparaît à l'automne. Le charbonnier, au bois, il ne gagnait pas beaucoup, mais au moins, il était libre.
Le charbon cuira.
On m'a parlé d'une histoire d'allumettes pendant la guerre, non ? On fabriquait pas des allumettes là-haut ?
Ah, oui, oui. Et qu'on fabriquait des allumettes ?
Oui.
Mais parce que vous connaissez la montagne ?
Un peu.
Vous savez où est le trou de Cambuse ?
Oui.
Là, c'est là qu'ils fabriquaient les allumettes.
Alors, qui c'est qui les fabriquait ?
Comment ?
Qui c'est qui les fabriquait ?
C'était des personnes... je ne sais même pas si c'était des personnes du pays. Je crois que c'était plutôt des Italiens.
Des charbonniers ? Peut-être, non ? Non ?
C'est toi ! Cassie ! J'ai pas compris.
C'était des charbonniers plutôt, enfin des Italiens ?
Non, c'était spécialement pour faire des allumettes.
Ah, ils faisaient
vous
que...
Vous savez comment et ça se fait, les allumettes ?
Pas vraiment, non ?
Ils coupaient des morceaux de bois, et puis ils les taillaient en carré. Mmh. Et après, ils découpaient, ils faisaient avec... Ils avaient sûrement une scie, moi, je sais pas... Mais il découpait, il faisait la forme des allumettes, et puis il mettait du phosphore, du soufre. Nous, on en a utilisé. Vous savez, elles étaient bonnes.
Est-ce que ça vous dit quelque chose d'une fabrique d'allumettes au pas de la Cambuse ?
Oh.
Non ?
Oui.
C'est vrai, ça ?
Pour ça, il faut aller voir Madame Romère. Mais vous n'êtes pas allé voir Madame Romère.
Si, c'est elle. Oui. Mais pourquoi elle connaissait particulièrement ça?
Je ne sais pas, moi, l'ancien maire nous en avait parlé souvent, là, le Guillon. Oui. Pas si vous l'avez connu.
Oui, bien sûr.
Il nous en parlait souvent. Je sais, parce que les allumettes, c'était défendu dans le temps. Qu'est-ce qu'il y a une histoire, là?
Justement, ça m'a semblé un peu particulier.
Oui. Mais je crois que c'était défendu, puisque c'était un trafic d'allumettes qui faisait. Ça, c'est on en dit. Hein.
Parce que c'était déjà l'État qui faisait les allumettes. C'était comme les cigarettes avec la CETA.
Je sais pas comment.
Vous, parce que Madame Romet, au point de vue date, elle avait dû. Elle m'a pas dit. Vous, quand vous étiez gosse, ça existait encore. Non.
Non, c'est plus vieux.
Plus vieux que ça.
C'est même plus vieux que Madame Romet, bien sûr. Oui. Et elle vous a dit une date, non? Et même, je me demande si c'est vrai, parce que le tour de Cambus, je ne sais pas si vous savez où il est. Il faut commencer à monter le rocher pendant. Et après, il y a un trou dans le rocher, mais il faut monter là-haut. À l'époque, il n'y avait pas d'alpinistes à l'époque. C'est pour ça que je me demande si c'est. C'est des ditons. Hein.
Ma grand-mère, elle m'avait raconté qu'elle attendait mon grand-père juste à côté de cette grotte, justement. Et avant,
pourquoi ils l'attendaient pas devant la mairie de. Ils étaient là-haut.
Ouais, mais ils étaient à la montagne, ils travaillaient donc. Et je sais pas à quelle heure était le rendez-vous, et ils avaient dû se donner un rendez-vous là, à cet endroit-là, quoi. Et donc il y avait des petites lianes qui cachaient ce coin-là, qui cachaient tout le rocher. Et ma grand-mère, elle est tombée dedans en voulant s'accommoder dessus, quoi, se pousser dessus. Et hop, elle est tombée dedans. Donc elle a appelé ses frères qui sont allés voir un peu et ils ont vu qu'il y avait un gros trou, ils sont rentrés pas trop profond, quoi. Et après donc ils ont appelé le 4 là qui devait être le docteur donc et qui est passé et après qui a fait des petites découvertes, trouvé des petits squelettes ou des trucs comme ça, quoi. Voilà.
Les parois de la grotte étaient un véritable livre dans la mesure où, au début du siècle et à la fin du 19e siècle, les cavités souterraines, qui étaient facilement accessibles, étaient des buts de promenade pour les gens qui habitaient près, Laurent Curel, Choran, Châtelus, etc. Et contre ces parois, on retrouve, en y faisant attention, des noms qui sont tout à fait des noms du coin, comme des Glénat, des Idelon, des Audier, des. Ce sont des noms de gens qui sont allés visiter cette grotte en touriste. En fait, on peut considérer finalement qu'après les hommes préhistoriques, c'était les premiers touristes de la grotte, quoi. À un endroit, il y a même quelque chose qui est assez émouvant. Il y a une institutrice, il y a un nom, et puis entre parenthèses, c'est marqué institutrice. Et puis, est décliné sous le nom de cette personne, tous les élèves qu'elle a emmenés visiter cette grotte, c'était en 1904 ou en 1905. Voilà. Et c'est écrit, bien sûr, on voit très bien, c'est une écriture qui est très bien faite, avec des pleins et des déliés. C'est écrit à la mine, bien sûr, puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen d'écrire à cette époque-là.
Il y a eu quand même, hein, alors c'est vrai que la mémoire l'a un peu oublié, mais il y a eu jusque vers 1880 des centaines d'habitants dans les coules. Mais c'est énorme, rien que sur aujourd'hui le site de Bury, la fontaine de Bury, c'était 100 habitants en 1870. Et ces gens-là, bon bah, ce sont pas des sauvages, hein, ce sont des paysans, essarteurs, bûcherons un petit peu, éleveurs qui sont connus, puis qui se promènent, et puis ils sont pas isolés. C'est aujourd'hui, parce que la forêt a regagné du terrain, qu'on a ce sentiment effectivement qu'on est revenu. On est revenu au Herm, au territoire de solitude. Et effectivement, les gens des villages alentours, ils ont gardé le souvenir de l'aïeul qui avait peut-être vécu là ou qui avait mis des bêtes. Mais aujourd'hui, c'est redevenu effectivement un territoire de solitude. Je dois avouer que j'ai eu peur. J'ai des peurs irrationnelles, c'est des trucs en entendant, entre guillemets, aboyer un chevreuil, du chahut aussi fait par des sangliers. Donc c'est des trucs, ma raison peut les expliquer, mais bon, quand vous entendez ça à 3h du matin, ça. Ça donne un petit coup de sueur. Et puis, y a la perte aussi. C'est-à-dire, à plusieurs reprises, je suis descendu faire des courses. J'avais oublié du pain. Tac, je descends à pied à la balle. Mais puis, je me suis perdu en remontant. Parce que je pensais connaître les sentiers. Or, il y en a plein. Et puis une petite errance de 2-3 heures en forêt comme ça, et puis qui vous emmène à un coin que vous aviez pas prévu. Je me suis retrouvé au hameau des Glénats en contrebas. Bon, je suis pas forcément un très très bon connaisseur des sentiers secrets des Coules, mais je me suis dit, bah tiens, ça réveille des espèces de fantasmes. Alors, dans la conscience de l'homme occidental, c'est...
T'es fier d'habiter là?
Ah oui, ça c'est... Oui, oui, ouais. Je suis fier d'habiter là. Parce que c'est luxe, tu vois. Maintenant, j'en suis fier. Ouais. J'en suis très fier parce que c'est un cadre privilégié, quoi, pour tous les jours, donc que ce soit pour moi, pour les enfants. Moi, je suis vraiment fier.
Vous quitteriez pas ici?
Oh, si.
Si?
Eh ben, voilà. Oh là, on me dit, je pars demain, je pars. Hein.
Ah,
oh là, oui. Oui. Je ne suis pas attaché au... Non, non. On dit que les chats s'attachent au mur, mais moi, je ne m'attache pas au mur.
C'est difficile d'en parler, parce que quand on a un attachement, je crois que c'est ça. Je crois que c'est difficile de parler d'une forêt à laquelle on est attaché. On n'y voit que des belles choses et que, je ne sais pas, on y voit peut-être... je ne sais pas. Je pense que
c'est-à-dire qu'on connaît chaque recoin.
Voilà.
On connaît partout, partout.
On en parle avec amour.
Donc, c'est cet élément-là, je pense, qui fait qu'on aimera plus les coulmes que d'autres forêts qui sont peut-être, pour certains, plus belles.
Pour moi, je dirais que c'est sauvage, voilà ce que je pourrais dire. C'est pas galvaudé, il y a très peu de gens, c'est typique. C'est de la. Je dirais pas de la moyenne montagne, c'est la basse montagne, 2000 mètres à 1400 et quelques mètres. Hein, pour moi, c'est sauvage encore, voilà. C'est resté à l'état sauvage.
Oui, sauvage. On va croiser des chevreuils, on va croiser des sangliers. Le soir, on rencontre des blaireaux qui font leur promenade nocturne. On voit souvent des renards, des écureuils, quelques chamois. C'est un endroit qui reste, oui, sauvage.
Si on veut se trouver tranquille dans les coulmes, on peut encore aller se balader sans voir personne. Il n'y a pas de...
Bah moi, c'est vrai que ça m'attire quand on est le week-end là-haut à la montagne. On se sent bien, quoi. On se sent tranquille. Il n'y a pas de bruit. On peut se faire des balades.
Comme je vous ai dit tout de suite, pour moi, c'est biologique.
Et c'est vrai que la forêt des Coulmes, avec tout le qu'on monte, on descend dans tous ces sentiers autour de Presles, la partie que je connais, et surtout le soir quand il y a la couchée de soleil. Je suis vraiment heureux parce que c'est majeur, le soleil au fond, et tu es contente d'être vivant dans les Coulmes. Et doucement, doucement, je vais connaître toujours un peu plus loin. Maintenant, avec la VTT, je peux faire quelque chose.
Moi, je ne parle pas spécialement des communes, hein. Je parle du massif, hein. du massif des Coulmes en tant que tel. Et moi, je crois qu'il ne faut absolument pas le toucher.